Bien, merci Olivier, merci beaucoup de cette invitation. Donc c'est un grand plaisir de venir exposer mes recherches. Alors j'ai un peu hésité quand Olivier Beau m'a proposé cette formule, parce qu'il se trouve qu'en fait depuis 2000, en fait ça a commencé en octobre 2016, je co-dirige avec mes collègues Jean-Yves Franchère et Thomas Berne, salut ULB, un vaste programme de recherche sur l'actualité et la pensée de Claude Lefort. Et j'ai pensé à un moment, je me suis dit, ben, je pourrais vous présenter ce projet qui fait l'objet d'un financement important sur 5 ans et qui va donner lieu ou a déjà donné lieu à plusieurs thèses de doctorat, des colloques, un séminaire mensuel, etc. Ça aurait été plus simple parce que le projet est déjà très construit. Et en même temps, moi, il m'a semblé plus utile, en tout cas pour moi, peut-être ici un peu égoïste, vous présenter un projet plus personnel, mais qui est beaucoup, beaucoup moins avancé, parce que j'en suis même pas à la rédaction du vrai projet de recherche. Plus personnel, pas au sens où je serais toute seule à le faire, parce que je travaille aujourd'hui quasiment plus qu'en binôme avec Jean-Yves Franchère, mais au sens où là, je pense qu'il pourrait donner lieu à un ouvrage, et parce que je pense aussi qu'il nous en, enfin moi il m'engage plus non seulement en tant qu'universitaire mais aussi en tant que citoyen. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors le projet est encore assez peu abouti. On a quand même l'idée cette année avec Jean-Yves, on rédige un petit livre pour la République des idées, mais ce serait vraiment que l'esquisse. On se demande s'il y a matière ou non à construire un projet plus important là-dessus. Et donc c'est pour ça que je suis très curieuse de savoir comment vous allez évaluer les pistes qu'on a en tête, si vous les jugez fécondes ou déjà largement rabattues. Et donc pour aller droit au but, il s'agirait au fond de tenter de répondre à un certain nombre de critiques des droits de l'homme qui sont désormais très présentes dans l'espace public. Donc il s'agirait d'un projet qui s'inscrit évidemment dans la ligne assez direct ou dans le prolongement direct des travaux que j'ai menés depuis 2010, à ceci près que notre volonté est désormais peut-être plus normative que reconstructive, puisque donc j'ai commencé des recherches sur les critiques des droits de l'homme il y a environ 7 ans, qui ont donné lieu à un ouvrage publié au Seuil il y a maintenant 2 ans. Et donc dans cet ouvrage, notre intention, elle était vraiment généalogique ou reconstructive, c'était tenter d'élucider différents courants de pensée dans toute leur diversité. Alors évidemment, ça ne nous a pas empêché de pointer les contradictions internes des arguments qu'on avait élucidés. Ça ne nous a pas empêché évidemment d'avoir une conclusion qui était quand même très engagée. Mais je crois qu'on est resté, on a tenté de rester très honnête en restituant des arguments que nous ne partagions pas forcément, sans les caricaturer. L'objectif, c'était vraiment d'élucider avant que de répondre. Mais déjà à l'époque, dans le projet de recherche, j'envisageais la possibilité que ça puisse déboucher sur un autre travail plus normatif qui puisse voir quels sont les arguments qui pourraient être opposés à ces différentes critiques. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant on va devenir malhonnête, mais on va évidemment tenter d'intégrer la part de vérité de ces critiques. Mais disons, l'idée, ce serait plutôt de voir quelles sont les défenses des droits de l'homme qui pourraient être proposées. Alors, peut-être que je vais peut-être faire un rappel pour ceux qui n'auraient pas lu notre ouvrage. Le rappel, c'est que bon, nous, on était parti du constat qu'au fond, et je pense que ce constat n'a pas été démenti au cours des 7 dernières années, loin de là, la montée dans le champ de la philosophie politique, mais aussi de plus en plus dans le débat public, de critiques multiformes à l'égard des droits de l'homme, qui sont au fond accusés d'entraîner une forme d'éclipse de l'autorité et de la tradition, d'atomiser les relations sociales, de dissoudre les liens sociaux, nationaux et familiaux, parfois accusés de la montée des incivilités, ou alors, venus de bords politiques très différents, d'être au fond les instruments utiles de l'ordre néolibéral et de la domination impériale. Et d'où ce paradoxe aujourd'hui, c'est qu'au fond, les droits dits fondamentaux sont désormais attaqués par des régimes politiques établis au cœur même de l'Union européenne. Un certain nombre d'ONG, de rapports font état d'une régression des droits dans notre démocratie. il me semble qu'il n'y a plus beaucoup de voix fortes en dehors, dans la sphère intellectuelle et politique, pour défendre un vocable qui est associé tantôt à une forme d'angélisme, tantôt à une tentative détournée pour nous faire bénir le capitalisme, hein, pour reprendre l'expression de Gilles Deleuze. Et il me semble que se multiplient les prises de distance critique au point que certains s'interrogent ouvertement, c'est le titre de plusieurs ouvrages, la fin des droits de l'homme. Alors, il ne s'agit évidemment pas de pousser loin. Peu d'auteurs contestent les droits de l'homme en tant que tels, mais en disant, en tout cas, leur usage, la façon dont ils sont mobilisés, fait l'objet de critiques de plus en plus importantes. Alors, je ne reviens pas, ça c'était dans l'ouvrage que nous avons publié, on avait distingué trois types de critiques, hein, la critique antimoderne, la critique communautaire, la critique radicale. Mais aujourd'hui, ce qu'on a tenté de faire, ce qu'on n'avait pas fait, c'est de dire au fond, dans ce patchwork dont les éléments sont hétéroclites, qui viennent de bords politiques souvent très opposés, de courants de pensée très différents, il nous a semblé à ce stade qu'on pourrait distinguer trois grands griefs, mais c'est provisoire, sans doute que d'autres peuvent être encore distingués. Le premier grief, c'est l'idée au fond que nos droits de l'homme contemporains, je dis nos droits de l'homme contemporains parce que l'idée c'est la version des droits de l'homme qui se serait imposée aujourd'hui, signerait en quelque sorte la fin du politique. L'idée ici, c'était que les droits proclamés en 1789 étaient liés à une vie collective, se concrétisaient dans la citoyenneté nationale et la participation à la vie commune, alors que nos droits humains contemporains ne seraient plus que les droits des individus privés, expression de simple revendication à un confort personnel détaché de toute activité collective. L'individu titulaire de droit serait, selon ses auteurs, devenu la seule réalité digne de ce nom, et il serait vain de chercher, de mettre nos espoirs du côté d'un foisonnement associatif qui ne serait que l'expression de revendications particulières coupées du bien commun et de l'intérêt général. Et donc, même dans ces versions les plus radicales, cet argument consiste parfois à opposer, au fond, deux versions des droits de l'homme, hein, qui n'auraient plus de rapport entre eux, les droits de l'homme classiques, ceux de 1789, qui matérialisent une figure de limite, et puis la nouvelle doctrine des droits de l'homme, qui relèverait d'une logique de revendication infinie. Ce qui est en cause aussi, c'est au fond la forme nouvelle qu'aurait prise notre discours des droits au cours des cinq à six dernières décennies, et qui conduirait au fond à une forme de colonisation de notre culture politique par un langage des droits qui serait tout entier tourné vers les défenses et prérogatives de l'individu. Au risque au fond de voir notre société devenir en fait une société litigieuse marquée par un déséquilibre entre droits et responsabilités, avec toute controverse serait réduite à un affrontement entre droits concurrents sans sens du compromis. Et c'est le thème qu'on retrouve chez un certain nombre d'auteurs anglophones, mais aussi dans la philosophie politique française, chez Marcel Gauchet, qui est sans doute la figure celui qui a le plus articulé ce thème, au fond, d'une démocratie qui se retourne vers elle-même, alors que le terme démocratie renvoyait à la capacité de se gouverner soi-même, il ne renverrait plus aujourd'hui qu'à la protection des droits de l'individu. Alors ça, ce serait le premier grief. Le deuxième grief qui ressort, c'est au fond cette idée que les droits de l'homme seraient indissociables de l'émergence d'une société d'individus. Société d'individus dont les symptômes les plus flagrants seraient d'abord la disparition de la famille en tant qu'institution et son remplacement par une simple association de personnes sans autre objet ni enjeu que la satisfaction des besoins affectifs de chacun. Deuxièmement, l'anéantissement de tout projet éducatif fondé sur la transmission au nom du seul développement de la singularité individuelle. Encore une fois, tout ça est développé de façon assez nette dans le dernier ouvrage de Gauchet. Et puis enfin, la montée des incivilités au nom du droit au respect et le discrédit. Alors ça, c'est plus un thème qu'on retrouve dans l'espace public, le discrédit jeté sur toute forme de galanterie au nom de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Autrement dit, ici je paraphrase Marcel Gauchet, on serait passé d'un univers social de famille à un univers social d'individus, où l'enfant, par exemple, n'est considéré que comme un individu de droit, dont il s'agit de favoriser la singularisation et pas la socialisation. La famille aurait cédé la place à la sphère de l'intime, une libre association de personnes informelles, avec pour seule limite la protection des droits de chacun. Alors sur une forme beaucoup plus nuancée, c'est aussi un peu la critique qu'on retrouve dans l'analyse de ce qu'il appelle les pathologies de la liberté juridique chez Axel Honneth, dans son ouvrage « Le droit à la liberté », où il pointe de façon plus mesurée, mais une tendance au fond aujourd'hui à nous retirer au sein d'une coquille de droit juridique, comme il dit, et à nous manifester vis-à-vis des autres en tant que personne juridique. Il prend l'exemple de ce film déjà ancien d'ailleurs, de Kramer contre versus Kramer. Je rappelle ce film où on voit Meryl Streep et Dustin Hoffman s'affronter pour la garde de l'enfant. Il dit au fond, on est entré, où finalement, il dit celui qui voit le film se rend compte qu'on en vient à jeter un doute. Tout ce qui arrive à l'enfant, même un incident, quoi, n'est envisagé qu'au prisme de l'affrontement qui va se jouer au tribunal. Et il parle donc d'un processus de juridification qui conduit à oublier les nécessités communicationnelles, donc qui envahiraient la famille, l'école, le loisir et la culture. Donc c'est un peu cette idée au fond que d'une perte de ces nécessités de communication, perte de l'autorité au profit on ne se visage plus que comme des sujets de droit. Enfin, le troisième grief, les droits de l'homme seraient indissociables du nouvel ordre néolibéral. Au fond, l'idée ici, c'est que l'idéologie des droits de l'homme et le fondamentalisme du marché constitueraient les deux matrices d'un néolibéralisme défini par l'impossibilité d'imposer quelques limites que ce soit aux initiatives économiques des acteurs et à l'expression de leurs droits. Bon, ça, la critique est ancienne, hein. Les droits de l'homme seraient la précondition, comme l'avait noté Marx, d'un marché libre, et ils accompagneraient sans difficulté aujourd'hui la férocité de la concurrence mondiale. Alors, c'est un argumentaire qu'on retrouve évidemment dans un certain nombre de courants de la gauche dite radicale, selon lequel, au fond, les droits de l'homme convergeraient avec les impératifs de l'impérialisme libéral et de l'échange global. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, cette thèse selon laquelle les droits de l'homme ont partie liée avec le néolibéralisme, c'est une thèse qui a essaimé, qu'on retrouve maintenant bien au-delà des rangs dits anticapitalistes. Hein. À nouveau, Marcel Gauchet, on ne va pas le soupçonner de frénésie révolutionnaire, écrit explicitement « Le complexe néolibéral, dit-il, a une double entrée, une entrée par le droit et une entrée par l'économie. Il a d'un côté les traits de l'idéologie des droits de l'homme et de l'autre ceux du fondamentalisme du marché. » Et donc, l'opposition de surface entre une gauche qui pousse à l'extension des droits des individus et une droite qui vise à maximiser les intérêts des acteurs économiques dissimule le fait que libéralisme économique et libéralisme sociétal sont les deux branches d'un même dispositif. Et c'est une idée qui est également martelée livre après livre par ce partisan d'un socialisme originel qui est Jean-Claude Michéa. Alors, mes collègues, peut-être qu'ils sont plus rigoureux que moi, ont parfois du mal à citer, à s'appuyer sur Michéa, parce que c'est vrai que Michéa n'est pas très rigoureux d'un point de vue strictement académique. Mais moi, je crois quand même qu'on doit se saisir de ses thèses, parce que je constate qu'il a d'abord un énorme public et un très grand impact sur nos étudiants. Moi, mes bons étudiants, ils ont lu Michéa, ils adorent ça. Donc, il faut voir que dès 2007, hein, ce dernier avançait la même expression de double entrée pour définir l'ensemble du tableau libéral. Il disait, au fond, la même thèse, hein, à l'expansion illimitée du marché promue par la droite correspond la prolifération des droits culturels et sociétaux réclamés par la gauche. Donc, c'est l'idée qu'entre partisans de la dérégulation d'un côté et libertaires gauchistes, il y a une alliance objective, mariage pour tous, droit de vote des étrangers, reconnaissance des familles au bon parental d'un côté, démantèlement du code du travail, réduction des impôts, privatisation de l'autre, tout ça participerait d'une même mouvance idéologique. Et d'ailleurs, je lisais récemment un article d'un de vos collègues, hein, Olivier de Frouville, justifier le droit international, défendre le cosmopolitisme. Et c'est intéressant parce qu'il montre bien aussi au niveau international que dans les discours critiques du droit international, une liaison quasi systématique est opérée entre critique du cosmopolitisme et critique du libéralisme économique. Il dit au fond, les dimensions cosmopolitiques du droit international auraient pour fonction essentielle de servir d'adjuvant au projet néolibéral, que ce soit par l'exercice d'une action disciplinaire, notamment via le Conseil de sécurité, ou via la mise en œuvre de programmes et de normes conduisant à l'individualisation des sociétés. Plus spécifiquement, dit-il, les droits de l'homme, cœur juridique et idéologique du cosmopolitisme, travailleraient à l'expansion du capitalisme, tout en généralisant les revendications de droits individuels. Lui, ce n'est pas la position qu'il défend, mais il note aussi l'émergence de cette critique. Donc ça, ce seraient les trois griefs qu'on a retenus à ce stade. Il y en aurait certainement d'autres. Mais la question que je me suis posée, donc, c'est une fois ce panorama des critiques adressées aux droits de l'homme, que peut au fond la théorie politique. Et en fait, mon intuition, c'est nous avons besoin de renouveler notre discours des droits de l'homme et qu'il me semble qu'on a besoin aujourd'hui de croiser les apports de plusieurs disciplines, le droit, bien sûr, la philosophie, bien sûr, mais aussi la sociologie et l'histoire, pour tenter d'apporter des réponses à ces critiques, tout en intégrant évidemment leur part de vérité. Et c'est pour ça que je disais que c'est un projet qui est personnel, parce que moi j'aimerais défendre l'idée qu'il ne s'agit pas ici seulement d'un exercice académique, mais d'une question réellement politique, parce que ces critiques ont désormais essaimé dans l'espace public et informent les politiques concrètes d'un certain nombre de pays de l'Union européenne. Et voilà, peut-être que c'est injustifié, mais il me semble qu'il y a peut-être matière à prendre un risque, à faire un travail. Est-ce qu'il est possible de faire un travail à la fois scientifique et militant? C'est peut-être quelque chose dont on pourra discuter après. Et donc je vais mentionner au fond trois questions qui orientent le petit livre que je tente d'écrire avec Jean-Yves à ce sujet. Mais encore une fois, on est vraiment qu'au préliminaire et il s'agit d'ouvrir la discussion sur ce que pourrait être un projet de recherche qui tenterait de répondre à ces critiques multiformes. Alors, d'abord, la première question, ce serait évidemment la question de les droits de l'homme font-ils vraiment de nous des mauvais citoyens ou le rapport des droits de l'homme à la démocratie. Bon, ici, bon, il y aurait peut-être un premier point, mais qui ne serait pas au cœur de l'argument, qui consisterait à se demander si l'interprétation de la crise de la démocratie comme liée à l'extension des droits ne détourne pas singulièrement l'attention de la montée des inégalités, de la généralisation de la précarité ou de la destruction d'un certain nombre de formes de solidarité. Il y a quand même une éclipse, il me semble qu'il y a dans certaines philosophies politiques, notamment françaises, contemporaines, quand même une éclipse de la question sociale qui est tout à fait surprenante. Mais au-delà de ça, parce que ce n'est pas le cœur de notre interrogation, je dirais qu'il y aurait plusieurs pistes qu'on pourrait peut-être combiner. Il y aurait une première piste qui relèverait plus de la théorie politique, et qui consisterait, au fond, à s'interroger sur la notion de politique qui est en jeu dans le lien opéré, qui est ainsi opéré entre primat des droits de l'homme et fin du politique. La question qui est posée, c'est qu'est-ce que la démocratie ? Est-ce que la démocratie, c'est l'identité, l'homogénéité, la capacité à désigner ses ennemis ? Et dans ce cas, oui, il est clair que les droits de l'homme désarment le politique. Mais cette position n'est évidemment recevable que dans le cadre d'une pensée qui confond autonomie démocratique et théologie nationaliste. Dans ce cas-là, la souveraineté populaire, il faut le dire, n'est que le prête-nom de l'homogénéité nationale. Alors, si ce n'est pas ça, est-ce que, au contraire, la démocratie, c'est l'autogestion complète de la société ? Et est-ce qu'à ce moment-là, dire qu'il y a perte du politique, là où s'imposent les droits de l'homme, ce n'est pas rester finalement prisonnier d'une forme de fantasme révolutionnaire où s'il n'y a pas de projet de transformation sociale totale de la société, il n'y a pas politique. Donc ça, ce serait une première interrogation, ce qu'on se serait demandé au fond, quelle est l'idée de démocratie, quelle est l'idée de politique qui est impliquée derrière. Au-delà, il y aurait un travail qui a déjà été accompli, mais peut-être, et c'est là que le projet Lefort, évidemment, ce que nous faisons sur Claude Lefort va s'articuler directement à ce projet-ci. Il s'agirait de rappeler ou de montrer que les droits de l'homme sont bien les droits de la liberté des rapports sociaux et que les revendications des associations sont bien articulées à une certaine conception de l'ensemble de la citoyenneté, pardon, même si leurs acteurs n'en ont toujours pas conscience. Et c'est pourquoi Lefort est si important, puisque personne n'a insisté aussi fortement et aussi constamment que Lefort sur le fait que les individus ne sont pas la source des rapports sociaux, mais leur terme, que les droits de l'homme ne sont pas d'abord des droits de l'individu, mais des droits de la relation sociale, et qu'il est impossible de réduire le social à l'inter-individuel. Ce sont là des thèmes centraux de la célèbre défense des droits de l'homme que Lefort oppose par Marx. Je rappelle que Lefort disait de la critique marxienne qu'elle était vraie, mais seulement dans la mesure où elle ne s'applique pas au principe même des droits de l'homme, mais à leur rabattement libéral ou bourgeois sur les seuls droits apolitiques de l'individu propriétaire de lui-même, contre le quoi il faisait valoir que les droits de l'homme ne sont pas seulement ceux des individus, mais qui sont constitutifs de l'espace social démocratique, qu'ils font découvrir une dimension. Il prenait l'exemple, celle-là, de la liberté d'opinion, en disant que l'opinion n'est pas une propriété privée. Les droits de l'homme font découvrir une dimension transversale des rapports sociaux. Alors, toujours dans ce champ, peut-être théorie politique et histoire des idées, il y aurait peut-être matière à montrer, en revenant à l'histoire des idées, qu'en réalité, l'invention des droits de l'homme n'est pas libérale, qu'elle participe de la révolution démocratique qui précède, en réalité, la distinction entre libéralisme et socialisme. Et que, pour le dire un peu rapidement, hein, la doctrine des droits naturels, selon lesquels les droits de l'homme sont des garanties juridiques, n'épuise pas la dynamique des droits de l'homme. Il y a une autre histoire, j'emprunte directement ceci à Bruno Bernardi, on a eu un échange avec lui à ce sujet, il nous disait qu'une des pistes, alors qui me paraît extrêmement intéressante, qu'il poursuit lui hein, actuellement dans ses recherches, je me suis dit, ça c'est très important sur nous, c'est celle qui consiste à montrer qu'à côté de la voie du droit naturel, qui fait des droits de l'homme des droits subjectifs, il en est une autre, pensable et historiquement avérée, qu'il caractérise comme voie du droit politique, à savoir que pour pouvoir se représenter à elle-même sous un principe d'auto-législation, une société doit constituer ses membres en sujet autonome. Il dit qu'il y a un fondement politique des droits de l'homme et lui s'intéresse notamment à un représentant de Vendôme, Jean-Baptiste Crénière, qui aurait formulé tout ça. Et donc, il veut travailler sur montrer au fond cette conception, comment cette conception alternative des droits de l'homme a été éclipsée au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle et qu'il s'agirait de la revaloriser, ce qui va exactement dans le sens des idées que nous avons aussi à l'esprit. Alors toujours dans les pistes que j'aurais en tête, il y a aussi une piste esquissée dans la fin de notre ouvrage, mais qui consisterait à s'intéresser beaucoup plus près à tout ce qui a été mené en sociologie du droit. Je pense aux travaux de Michael Macken aux États-Unis, Liora Israel en France, qui ce sont des auteurs en fond, qui s'intéressent au caractère collectif des luttes de droit et qui montrent comment ils sont également articulés à une certaine vision d'ensemble de la citoyenneté qui consiste à montrer que bien sûr ces acteurs n'ont pas la permanence des partis ou des syndicats ouvriers qui montre qu'au fond, les luttes pour les droits participent aux formations de collectifs qui sont bel et bien porteurs d'une certaine vision générale de la société. Et il s'agirait de voir dans quelle mesure ça peut venir. Moi, je rappelle que les critiques du caractère sectoriel des mouvements associatifs, hein, qui seraient incapables de se situer du point de vue de l'intérêt général, sont peut-être vraies dans certains cas, mais ce n'est pas toujours sans évoquer la façon dont Hayek critiquait les syndicats. Il disait exactement la même chose, qu'ils étaient incapables de se situer du côté de l'intérêt général. Et puis il y aurait une autre piste aussi qui me paraîtrait intéressante pour les philosophes politiques, c'est celle qui consisterait à se saisir des arrêts européens, à se plonger dans l'étude du droit européen international, parce que, au fond, peut-être pour voir de plus près cette idée selon laquelle le droit international et européen serait complice d'une logique libérale qui mènerait, néolibérale en tout cas, une idée qu'on trouve chez Gauchet, qu'on retrouve dans la critique des droits subjectifs chez Honneth, ou dans toute la lecture critique de gauche du droit international, si vous voulez, chez Koskenniemi par exemple. Au fond, là, il me semble qu'il y aurait peut-être une étude à faire de la jurisprudence, parce que peut-être que c'est vrai dans certains cas, peut-être aussi qu'un certain nombre d'arrêts nous montreraient qu'au fond, il y a souvent aussi une mise en balance des droits avec l'intérêt général, et que la dimension sociale des droits individuels est quand même extrêmement présente. Bon, c'est la thèse d'Olivier de Frouville, mais moi, je n'ai pas encore travaillé sur les arrêts, hein, donc j'en sais rien. Lui défend l'idée qu'au fond, la dynamique individualiste a plutôt été freinée par l'influence du principe universaliste inhérent au concept même des droits de l'homme par la jurisprudence que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ont toujours mis en balance l'intérêt général ou forme de vie démocratique, ce qui est vrai que la CEDH n'a jamais invalidé, par exemple, la loi française sur l'interdiction du hijab. C'est notamment parce qu'elle a pris en compte aussi le droit d'une collectivité démocratique à s'autodéterminer. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une nécessité, et ça, je dis, pour la philosophie politique, de plonger dans les arrêts et d'analyser la jurisprudence. Et je dois dire qu'au passage, je suis quand même très impressionnée, quand je lis mes collègues juristes, de voir à quel point ils se nourrissent de philosophie politique. Ils ont lu Sandel, ils ont lu Holzer, ils ont lu Gauchet, parce que l'inverse, c'est pas vrai du tout. Nous lisons très très peu les juristes et les arrêts, alors que je trouve qu'en tout cas les juristes le font beaucoup. Alors la deuxième question, donc ça ce serait peut-être les pistes ouvertes sur la question démocratique, hein, je vais essayer de quand même pas faire trop long, mais la deuxième question, alors ça c'était un peu en forme de boutade, j'avais le sujet de droit est-il un mufle? Ça, c'était parce que c'était Alain Finkielkraut dans une émission qui disait « Mais en fait, sujet de droit, c'est un mufle parce que c'est au fond l'idée que la critique des droits de l'homme se prolonge au fond dans une dénonciation de l'incivilité dont serait la cause la démission des autorités parentales et éducatives. » Et là, je reprends à nouveau... Et enfin, il est quand même extrêmement influent. Je lisais le dernier numéro de la revue des Deux Mondes, hein, février 2018, qui est consacré au piège des droits de l'homme, justement. Et Marcel Gauchet écrit ceci. Il écrit ceci. « La famille était le dernier lieu où l'inégalité des sexes et des générations et la dépendance mutuelle restaient organisatrices en dépit des avancées du droit des personnes. Cette institution a été rattrapée et révolutionnée par l'individualisme juridique. C'est ce qui donne son sens décisif au mouvement d'émancipation des femmes. Il introduit les droits fondamentaux des individus dans le dernier bastion qui leur résistait au nom des différences naturelles. Entre des individus de droit, il n'y a plus que de liens construits sur le consentement égalitaire, ce qui ne va pas sans soulever d'intéressants problèmes quand il s'agit d'enfants reconnus sujets de droit à part entière. Comment éduque-t-on un sujet de droit ? » Bon, j'ai trouvé ce texte assez amusant au passage, parce qu'il donne un peu le sentiment, je pense pas que c'était l'intention, mais il donne un peu le sentiment qu'accorder l'égalité des droits aux femmes conduit logiquement à l'égalité des droits des enfants, et je crois pas que ce soit ce que Marcel Gauchet a en tête, mais il y a quand même un saut logique que je comprends mal, parce qu'effectivement les enfants ont des droits, mais ils ne jouissent pas et personne ne propose de leur reconnaître l'égalité des droits, à ma connaissance, ils restent soumis à l'autorité parentale, évidemment enserrée dans certaines limites. Alors, à ce stade, moi, là-dessus, on en est vraiment très loin, on est vraiment encore nulle part, mais je me demandais s'il n'y aurait pas un travail à faire pour tenter de confronter la philosophie politique là-dessus à, je ne sais pas, est-ce qu'il faut se pencher sur la sociologie de la famille ? Je suppose qu'il y a des tas d'études sur la famille, parce que il me semble qu'il y aurait quand même un... Que ce tableau de la famille contemporaine qui aurait disparu en tant qu'institution, qui ne serait plus qu'une libre association de personnes, me paraît quand même à ce stade très peu étayé. Est-ce que la famille a vraiment sombré en tant qu'institution sociale ? J'aimerais soulever quelques doutes qui ne sont pas des doutes nourris d'un travail scientifique, je n'ai pas encore eu la possibilité de le faire, mais quelques doutes qui sont plutôt liés à des formes d'observation. D'abord, si la famille a vraiment sombré en tant qu'institution sociale, comment expliquer que l'abolition de l'héritage ? Je rappelle que l'abolition de l'héritage a été une revendication socialiste forte tout au long du 19e siècle, qu'Émile Durkheim considérait que c'était la conséquence obligée de l'individualisme, un individualisme conséquent supposé l'abolition de l'héritage. Il n'y a plus personne, ça a complètement disparu de l'agenda politique. Je connais, oula, effectivement, on dit que c'était le... Je ne vois absolument aucun responsable politique sérieux qui demande ou réclame une abolition de l'héritage. Je montre quand même qu'il y a quand même une persistance de la notion de famille, de la notion de transmission dans nos espaces publics. Puis je me demande si cette critique qui associe les droits de l'homme au déclin de la transmission et au fond à l'effervescence des désirs ne reste pas quelque part coincée sur un moment précis où effectivement il y a eu des confusions et des débordements, qui est peut-être celui de la révolution sexuelle des années 60-70, où un certain militantisme a pu conduire à des confusions oublieuses du fait que les enfants ne disposent pas de la capacité de consentement et de discernement. Est-ce que ce temps n'est pas aujourd'hui largement derrière nous ? Je m'intéresserais de faire un travail sur les injonctions, les messages qui sont véhiculés aux parents désormais. Ce n'est qu'une intuition, l'intuition de quelqu'un qui a eu des enfants elle-même au début des années 2000, où j'ai pas le sentiment que le discours dominant soit aujourd'hui celui de l'exaltation de la singularité. Il me semble plutôt qu'il est à l'imposition des limites. Il suffit de consulter les têtes de gondole des librairies sur attention à l'enfant tyran, attention à la tyrannie, etc., etc. Donc il y a quelque chose, je me dis, il me semble qu'il y aurait peut-être matière à travailler là sur cette question de la disparition de la famille qui ne serait plus qu'une association extra-légale. Même si je pense aussi qu'il y a matière à intégrer une part de vérité dans ces critiques, c'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui à articuler toutes les formes de revendication en droit à, ce qui, je le rappelle, n'était pas la position de Claude Lefort, qui disait très clairement que toute revendication n'est pas un droit, que toute forme d'opinion n'est pas un droit, et qu'il y a une tendance, au fond, à oublier qu'on peut avoir des devoirs et des responsabilités sans qu'il y ait de droits correspondants. Il n'y a peut-être pas de droits sans devoirs et responsabilités. Il y a aussi des responsabilités et des devoirs qui n'impliquent pas un droit. On peut penser des devoirs et des responsabilités vis-à-vis des enfants sans qu'ils aient l'égalité de droits. On peut envisager des devoirs et des responsabilités vis-à-vis des animaux, par exemple. Est-ce qu'il faut pour autant parler de droits aux animaux ? C'est une question ouverte. Et puis, du point de vue de l'histoire intellectuelle, pour terminer sur cette question de la famille, il me semble quand même que ce serait intéressant de confronter ces complaintes sur la disparition de la famille en tant qu'institution sociale avec un certain nombre de complaintes qui étaient émises, par exemple, par le contre-révolutionnaire Louis de Bonal. Parce qu'on peut se demander si, au fond, les contre-révolutionnaires ne faisaient pas preuve de davantage de cohérence. Quand vous lisez les critiques de Louis de Bonal au début du XIXe siècle contre la légalisation du divorce ou l'abolition du droit d'aînesse, lui montrait que ces mesures revenaient à détruire la cellule sociale la plus essentielle au profit de purs individus indifférents à leurs rôles sociaux. Je ne relise pas au plaisir où il disait... Bonald écrivait ceci, « La société domestique n'est point une association de commerce où les associés entrent avec des mises égales et d'où ils puissent se retirer avec des résultats égaux. C'est une société où l'homme met la protection de la force, la femme les besoins de la faiblesse, l'un le pouvoir, l'autre le devoir. » Et il disait, au fond, si on légalise le divorce, le mariage ne deviendra plus qu'une simple transaction de l'intérêt individuel. Euh, et, euh, il disait au fond, père et mère qui font divorce sont réellement deux forts qui s'arrangent pour dépouiller un faible, et l'État qui y consent est complice de leur brigandage. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, ce que voyait Bonald, au fond, c'est que, on peut se plaindre des méfaits engendrés par l'égalité de droit dans la sphère familiale, mais alors il faut refuser la démocratie elle-même, ce que faisait Bonald. Et donc la difficulté, je dirais, dans cette critique des effets antisociaux des droits de l'homme, c'est que personne aujourd'hui n'est prêt à assumer cette position traditionnaliste. Je crois, à ma connaissance, personne ne réclame l'interdiction du divorce ou le rétablissement du droit d'aînesse. Et donc on voit un peu se développer le thème d'une contradiction, les droits de l'homme et l'unité sociale, mais de façon flottante, sans aller jusqu'au bout de l'argument. Je suppose l'argument qui consisterait à dire, oui, mais bon, si on veut vraiment que le mariage ne soit plus, soit une institution au sens fort et pas seulement une association entre deux personnes égales, alors il faut aller jusqu'au bout de l'argument et refuser une forme d'égalité des droits. Et en lieu et place de cette position sociologique ou métaphysique forte qui avait sa cohérence, on n'a plus qu'une sorte de vision chagrine de l'ère du temps et de la psychologie contemporaine. Alors le dernier point, au fond, dernière question, c'est, là on a déjà plus avancé, je dirais, c'est la question de savoir si les droits de l'homme nous obligent à bénir le capitalisme, comme disait Deleuze, sont-ils vraiment solidaires du néolibéralisme. Et là, il me semble qu'il y a quand même un travail d'élucidation à mener pour montrer qu'au fond, l'identification du néolibéralisme à une expression de la politique des droits de l'homme est quand même largement un contresens. Si on relit Hayek, par exemple, qui est sans doute la seule grande figure néolibérale qui est connue au-delà d'un cercle de spécialistes, Hayek était hostile à toute expression des droits individuels qui aille au-delà de simples règles de conduite. Il parle tout le temps de règles de conduite qui permettent d'assurer l'efficience du marché. Je rappelle qu'il était très critique vis-à-vis des déclarations des droits et qu'il saluait, le principal penseur qu'il saluait, c'était quand même Edmund Burke, qui combinait libéralisme économique et dénonciation des droits de l'homme au nom de la propriété, de l'héritage et du marché. Donc il était très, il était extrêmement distant vis-à-vis de déclarations trop fortes. Et on peut se demander en réalité si le néolibéralisme n'a pas plutôt pour complément obligé le traditionnalisme, à savoir la sagesse spontanée des règles héritées. C'est très clair chez Hayek, il le dit très très clairement. D'ailleurs, le marché est validé par Hayek parce qu'il a historiquement fait ses preuves en tant que mode de sélection le plus efficace. Bon, ça, ce serait pour l'aspect, on peut le développer, on l'a déjà développé très, très largement chez Hayek, mais d'un point de vue historique, on peut rappeler que l'offensive ultralibérale a trouvé ses premiers terrains d'application dans le Chili des années 70, auquel Hayek a apporté son soutien d'ailleurs, qui n'était pas précisément un Éden des droits individuels. Que les exemples de Thatcher et de Ronald Reagan montrent aussi comment le néolibéralisme s'associe au conservatisme et à la valorisation de l'identité nationale. Et d'ailleurs, c'est un point que je comprends mal dans le dernier ouvrage de Gouchet, c'est que ça, il le montre très bien. Dans toute la première partie de son ouvrage, il montre très bien comment la révolution néolibérale a partie liée avec l'exaltation de la nation, des traditions, le retour à une certaine forme de tradition anglaise ou britannique ou américaine. Et puis dans la deuxième partie du livre, il nous dit que le néolibéralisme, c'est libre marché et droit de l'homme de l'autre. Et qu'on pourrait ajouter que cette alliance entre néolibéralisme et conservatisme se constate partout, que ce soit il y a quelques années dans la Tchéquie de Václav Klaus ou aujourd'hui dans la Hongrie de Viktor Orban. Et donc c'est pourquoi il me semble qu'il faut rester extrêmement prudent face à l'idée largement reçue selon laquelle le néolibéralisme se fonderait sur la déconnexion avec les collectifs d'un individu soucieux de ses seuls droits. C'est vrai que la rationalité marchande du néolibéralisme ne se confond pas avec la rationalité morale du néoconservatisme, mais, ça a été montré notamment par Wendy Brough, mais il y a quand même une convergence entre ces deux courants qui visent à limiter les principes civiques d'autonomie, de liberté politique et d'état de droit. Et à vrai dire, c'est vrai que le néolibéralisme se revendique parfois des droits individuels, et que le discours des droits de l'homme, alors c'est particulièrement le cas en France, a pu être un moyen d'acclimater à certains discours néolibéral dans un pays qui lui était plutôt réticent. Mais en réalité, il faut voir que le néolibéralisme propose une version extrêmement réductrice des droits individuels qui sont ramenés à une simple liberté de mouvement sur un marché et où les droits sont transformés en biens négociables et résiliables. Et donc est abandonnée au fond la conception de droits inaliénables, hein, selon lequel nul ne peut volontairement renoncer à son droit à la liberté et même à son principe d'égale dignité. En réalité, le néolibéralisme, pour nous, n'est pas une politique des droits de l'homme, mais vraiment une politique de l'efficience des marchés, ce qui est tout à fait différent. Et donc, en conclusion, je vais m'arrêter là. Au fond, il nous semble aussi, donc vous voyez qu'il y a des choses qui sont un peu plus avancées, et puis des choses qui sont vraiment en l'état simplement d'intuition de chantier, mais ce qu'on aimerait faire aussi, c'est au fond retravailler cette notion d'individualisme. C'est-à-dire qu'il nous semble qu'au fond, tout travail de renouvellement du concept des droits de l'homme suppose peut-être aujourd'hui aussi de réhabiliter une notion d'individualisme qui est très largement discréditée, hein. Plus grand monde se revendique de l'individualisme, contrairement à ce que faisait Jaurès, hein, qui lui en appelait à l'épanouissement de l'individu libre comme but ultime du socialisme. En fond, notre idée, c'est qu'il faudrait, l'idée qu'on aimerait faire, c'est au fond peut-être distinguer trois modèles historiques de l'individualisme libéral. Il y aurait au fond, la première figure, ce serait peut-être l'individu propriétaire de soi, garanti dans son indépendance par des droits inaliénables qui lui permettent de jouir des fruits de sa propriété. C'est au fond la figure du libéralisme classique qu'on trouve chez Benjamin Constant, qui va se partager dans une version élitaire ou censitaire, hein, chez Guizot par exemple, et puis dans une version démocratique, quasi républicaine ou jeffersonienne avec Tocqueville, donc l'individu propriétaire de soi. Et puis il y aurait ensuite la figure de l'individu souverain sur soi, qui va animer l'ambition d'un libéralisme social, qui va de John Stuart Mill à John Rawls, et qui peut converger avec le socialisme démocratique d'un Jaurès ou d'un Bernstein. Et puis, il y a cette figure de l'individu très différente, qui est l'individu finalement, deux figures historiquement justifiées et qui peuvent être défendues. Et puis, cette figure très différente, qui est l'individu entrepreneur de soi, qui s'est imposé dans le modèle du néolibéral, où finalement le sujet n'est plus le titulaire de droits inaliénables, mais le détenteur d'un capital de droits qui peuvent, par une forme d'auto-exploitation, être librement résiliés dans des échanges marchands. Et il s'agirait de montrer que cette figure néolibérale rompt avec le libéralisme classique, parce qu'au fond, elle substitue à l'idéal d'un individu assuré de son indépendance par son droit de propriété, la figure d'un individu qui devient propriétaire de ses droits comme d'un capital négociable, d'un individu entrepreneur de lui-même et qui finalement obéit aux ordres du marché dont il dépend. Et donc, voilà, ce serait un peu l'idée, ce serait d'aboutir à une forme de revalorisation de cette notion d'individu contre l'appauvrissement opéré dans le cadre néolibéral.